Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, fidèles auditeurs. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui veulent de nous rejoindre, ceux qui viennent de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. On va parler à présent des maladies du cerveau, de la prise en charge des maladies neurologiques en République démocratique du Congo. Quel état des lieux on peut dresser aujourd'hui? C'est à l'occasion de la journée mondiale du cerveau. Professeur Tarsis Oseke
Neuro... L'Oseke Nembalemba.
Professeur Tarsis L'Oseke Nembalemba est notre invité. Il est neurologue.
Je suis neurologue.
Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. À l'occasion de la journée mondiale du cerveau, on vous retrouve dans quelques instants pour en savoir un peu plus sur la prise en charge des maladies neurologiques en République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations, les standards sont déjà ouverts. Composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net et postez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Debs Vita à la mise en onde. Tati Mapoukou réalise cette émission. Paul Badianyama est au niveau des multimédias. Au micro, Jody Daniel Kachama.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, le monde célèbre le 22 juillet de chaque année la journée mondiale du cerveau. La santé du cerveau à tous les âges est le thème retenu pour l'édition 2025. L'objectif est de rappeler que la santé cérébrale ne concerne pas uniquement les personnes âgées ou atteintes des troubles neurologiques, mais qu'elle est essentielle tout au long de la vie, de l'enfance à la vieillesse. Quels sont les maladies neurologiques les plus fréquentes en République démocratique du Congo et quel état des lieux établi par rapport à leur prise en charge? On en parle avec notre invité, professeur Tarsis L'Oseke, neurologue. Professeur, encore une fois, bonjour et ravi de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission.
Merci, je dis bonjour à tous vos auditeurs.
Bien, alors nous parlons des... aujourd'hui c'est la journée mondiale du cerveau. Je pense que... qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, aux maladies neurologiques? Quel état des lieux on peut établir aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Il y a beaucoup de choses à dire sur le cerveau, mais pour être systématique et pour la compréhension du cerveau par nos auditeurs, je voudrais commencer d'abord par dire pourquoi une journée mondiale du cerveau. En fait... dans l'organisme humain, nous avons une tête. Et dans cette tête, il y a un organe qu'on appelle le cerveau. Le cerveau est l'organe central du corps humain. Pourquoi? Parce qu'il influence presque toutes les fonctions vitales de notre corps, notamment la respiration, la circulation, la digestion et maintient l'homéostasie.
C'est quoi l'homéostasie?
L'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre qui doit exister à l'intérieur du corps humain entre certaines fonctions physiologiques vitales.
D'accord.
Je ne vais pas entrer dans les détails.
Non, sinon on va se perdre.
Ça va nous éloigner de l'objet de cette émission. Donc, je disais que Le cerveau est l'organe central du corps humain qui est responsable de toutes les fonctions vitales, cognitives, émotionnelles et comportementales.
Donc on peut dire que c'est le centre de commandement.
C'est le centre de commandement. Mmh. Et d'ailleurs, c'est le premier organe qui se forme chez l'embryon avant de devenir fœtus, puisque tous les autres organes se développent autour du cerveau qui est l'organe clé qui stimule la formation d'autres organes chez les fœtus. Donc, le cerveau, comme vous voyez, a un rôle important. Nous pourrions parler de contrôle des fonctions, je viens d'en citer quelques-unes, comme la respiration, la circulation, la digestion, et d'autres encore. Mmh. Mais puisque vous avez fait allusion au développement du cerveau, je voudrais dire que chez l'enfant, dès la naissance, il se crée ou se forme progressivement des millions et des millions de cellules que l'on appelle des neurones. Et ces neurones-là, ce sont des neurones qui vont assurer la vie de l'être humain. Et cette formation de cellules, ces cellules-là, ont des connexions entre elles et avec des connexions avec d'autres organes qui assurent le fonctionnement du corps humain. Donc, pour que ce développement se passe de manière harmonieuse, mmh. il y a des choses qui sont essentielles. Donc, des conditions essentielles pour assurer ce développement harmonieux du cerveau chez l'enfant. Notamment, un environnement sain, une alimentation équilibrée, la stimulation cognitive et un bon sommeil surtout. Chez l'enfant, ça favorise le développement harmonieux et équilibré du cerveau.
Alors, souvent, on parle de la santé cérébrale, on parle aussi de la santé mentale. C'est toujours la même chose ou il y a une différence?
Certainement qu'il y a une différence, même s'il y a une certaine interaction entre les deux. En fait, la santé du cerveau concerne principalement l'état physique et biologique de l'organe qu'on appelle le cerveau. Tandis que la santé mentale concerne principalement les aspects psychologiques, émotionnels et sociaux de l'être humain. Donc, il y a une certaine différence, une différence nette entre les deux. C'est comme ça qu'on a séparé nos spécialités entre la neurologie, qui s'occupe de l'intégrité physique et biologique de l'organe qu'on appelle le cerveau. Tandis que la psychiatrie concerne principalement les aspects, ou plutôt l'état émotionnel, psychologique et social de l'être humain, d'une personne. Nous allons venir avec les maladies pour vous verrez la nette différence qu'il y a entre les deux, entre la psychiatrie et la neurologie.
D'accord. Alors, quelles sont les maladies qui touchent le cerveau, qui affectent le cerveau?
Non, et là, nous allons entrer dans les détails. Il y a beaucoup de maladies.
Bon, les maladies les plus courantes, exemple, ici en RDC.
Les maladies cardiovasculaires comme les AVC, que vous connaissez, accidents vasculaires cérébraux. Il y a les infections, les méningites, les encéphalites et consorts. Il y a les tumeurs. Il y a les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, et des maladies génétiques et j'en passe. Il y a plusieurs maladies et je citerai l'épilepsie qui a plusieurs causes aussi. Il y a les traumatismes crâniens. Nous vivons dans une ville où il y a plus de 5 millions de motos et tous les jours dans les urgences des hôpitaux de Kinshasa, il y a des milliers d'admissions de traumatisés crâniens. Donc, il y a une panoplie importante des maladies qui touchent le cerveau. Peut-être, si vous voulez, nous pouvons entrer dans les détails de certaines maladies. Mais de l'autre côté, il y a des maladies qui concernent nos fonctions émotionnelles, comportementale, tout ça, ça concerne la psychiatrie. La dépression, par exemple, le stress ou la gestion du stress concerne surtout les psychiatres, et les maladies, les psychoses chroniques comme la schizophrénie et d'autres. Mais je voudrais dire tout de suite que il peut y avoir une relation entre la neurologie et la psychiatrie.
Oui.
Parce que on peut avoir un cerveau malade sans avoir des troubles psychiatriques, tout comme dans certaines maladies, il y a à la fois des troubles neurologiques et des troubles psychiatriques. Tout comme on peut avoir des troubles psychiatriques sans avoir des lésions organiques, c'est-à-dire physiques ou biologiques du cerveau. Donc voilà, je ne dis pas qu'il y a une démarcation très nette entre la santé du cerveau et la santé mentale. Les deux sont souvent associés pour certaines pathologies.
D'accord. Bien, alors parlons de la prise en charge des maladies neurologiques en RDC. À quel état des lieux vous pouvez dresser?
Du point de vue épidémiologique, on n'a pas beaucoup de chiffres sur les pathologies neurologiques en RDC. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, à l'heure actuelle, la prise en charge des malades ou des maladies neurologiques ne se fait pas de manière optimale, pour deux raisons principales. Il y a un problème d'insuffisance du personnel formé en neurologie. Il y a quelques neurologues, peut-être quelques dizaines. Je crois que nous ne dépassons même pas une cinquantaine.
Et
on a formé beaucoup de jeunes, mais qui sont partis à l'extérieur pour trouver les conditions de vie existentielles convenables. Mais nous amplifions la formation comme on peut. Mais on est limité du point de vue infrastructure. Et c'est le point le plus important. Ici à Kinshasa, ici à RDC, nous avons un centre neuropsychopathologique qui est rattaché à l'université de Kinshasa, qui a toujours existé. Nous avions un autre centre à Kinkolé, mais qui est devenu un hôpital général. Et à l'intérieur, il y avait à Katwambi un centre, plutôt un hôpital psychiatrique, un centre neuropsychopathologique. Donc, les soins les plus importants en neurologie sont concentrés dans les grands centres, dans les grandes villes, comme Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, peut-être accessoirement Bukavu et Goma, mais c'est tous les neurologues, tous les spécialistes
sont
en neurologie
concentrés.
Sont concentrés dans ces centres-là. Donc ce n'est pas suffisant. Pour d'autres raisons qui font que nous sommes limités dans les prises en charge ou dans la prise en charge globale des maladies neurologiques, c'est le problème d'infrastructure. J'ai cité les hôpitaux, mais les équipements.
Prenons par exemple les cas des AVC. C'est devenu fréquent dans la société, ces accidents. Aujourd'hui, est-ce que tout est réuni pour une bonne prise en charge
Dans certains hôpitaux, oui, puisque on a les équipements, mais de manière limitée. Imaginez-vous qu'à Kinshasa, une ville d'environ 17 millions d'habitants,
certains parlent de 20 millions, voilà.
Il y a peut-être seulement 5 ou 6 scanners, 3 ou 4 résonances qui fonctionnent normalement, résonance magnétique nucléaire. Oh, le neurologue a besoin de ça. Et je vous dirais que le CNPP Moamba, qui est le centre neuropsychopathologique rattaché à l'université de Kinshasa, n'a même pas un service d'imagerie qui fonctionne. C'est-à-dire, nous n'avons ni radio, ni radiographie classique, ni scanner cérébral, encore moins une résonance magnétique. Je ne peux pas comprendre dans un pays qui se dit riche, où on détourne des millions et des milliards pour des bêtises et pour tout, et on ne sait pas acheter un scanner ou une résonance magnétique pour un hôpital psychiatrique de pointe comme le nôtre. Et donc, vous voyez que une espèce d'ambivalence entre ce que nous connaissons et ce que nous vivons réellement. C'est-à-dire, ce que nous connaissons, c'est que le pays est riche, il y a l'argent, et moi j'ai beaucoup d'autorité pour en parler, parce que j'ai été un responsable.
Donc si on
j'ai
parle...
J'étais ministre, si... vice-ministre des Finances, je sais comment... les richesses de ces pays sont gérées.
Oui.
Et donc, on ne va pas à l'essentiel. Et je vais vous donner l'impact de la santé mentale sur le développement de notre pays. Mmh. Vous risquez de pleurer. Donc, c'est un pays où la santé mentale est négligée, il n'y aura guère d'émergence.
Alors,
j'ai
les
dit
cas
aux auditeurs qui m'écoutent,
exemple.
Excusez-moi, j'ai oui. dit aux auditeurs qui m'écoutent, tant qu'on ne s'occupe pas de la santé mentale, des Congolais et principalement des autorités congolaises, nous n'allons pas du tout connaître le développement dans ce pays. D'autant plus que la santé mentale des autorités influe négativement sur la sécurité, sur la paix. Et vous pouvez faire l'analyse et nous faisons une analyse scientifique par rapport à ça. Mmh. Il faut qu'on s'occupe à un moment donné de la santé mentale des autorités congolaises.
Voilà, donc il y a un besoin, il y a des besoins partout, même au niveau de la population, même au niveau des autorités, mais on n'a pas assez d'experts, on n'a pas assez des centres, on n'a pas les équipements. Bon, comment
J'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. Si on donne les moyens pour la formation, pour les équipements, tout va se développer. Vous allez dans des
j'ai
pays...
J'ai bien écouté, j'ai bien suivi ce que
non,
vous avez
non,
dit
mais,
tout à l'heure.
Non, vous faites des jérémiades pendant que je vous donne les vraies raisons qui font que notre pays est plombé. Notre pays n'évoluera pas si on ne s'occupe pas de la santé mentale des habitants. Je vais vous donner des exemples de santé mentale qui influent négativement sur le développement. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome d'hubris. J'appelle H-U-B-R-I-S, qui est un syndrome décrit par mon ancien maître à Londres quand j'y étais. En fait, il s'agit de quoi? C'est de la santé mentale qui concerne l'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir, c'est quand des gens accèdent au pouvoir après une pauvreté extrême ou trouve l'opulence ou la jouissance.
Il développe ce syndrome-là.
Ce syndrome...
l'ivresse du pouvoir.
Syndrome d'hubris.
D'hubris.
Et à tous les niveaux, hein, je sommet à un certain niveau, tout le monde vit dans la jouissance et avec des comportements irrationnels et des décisions tout aussi irrationnelles. Et vous voyez, c'est la santé mentale.
C'est déjà
un
problème mental.
C'est un problème mental sérieux. Ça relève de la psychologie politique.
Donc, si on vous donne tous les moyens, les équipements, vous serez en mesure de prendre en charge ce genre de problèmes.
Oui, alors, si on nous donne, mais il n'y a pas une volonté politique pour nous donner. Ce n'est pas l'argent qui manque. Et ces équipements ou ces infrastructures ne coûtent rien. Imaginez-vous, le CNPP de l'Unikin n'a même pas un scanner, même pas une résonance magnétique. Et là, je m'adresse aux
décideurs. Et comment vous faites quand vous recevez, par exemple, les patients?
Mais vous savez, il y a des centres privés, je ne cite pas des noms, où nous référons pour avoir les résultats, parce qu'il faut travailler avec les moyens de bord. Mais ici, je fais non seulement un plaidoyer, mais j'ai dit, je stigmatise les comportements de ces gens-là qui souffrent de syndrome d'hubris, qui comprennent que...
L'ivresse
du pouvoir et qui pensent à autre chose, à eux-mêmes, pas à la population qui souffre. Eh bien, ces personnes-là, les décideurs, ils n'ont qu'à penser au CNPP qui est le centre des références en Afrique centrale.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de la prise en charge des maladies neurologiques en RDC. Quel état des lieux établir? Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, Chrysostome à Arou, Ismaël à Lubumbashi et Blaise Saïdi à Kisangani. Vous voulez également participer, composer les 099-706-9941. Bien, nous parlons de la prise en charge des maladies neurologiques. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour Monsieur Jody, hein. Bonjour également à Monsieur le professeur. Un sujet vraiment très pertinent, parce que vous voyez, la prise en charge des malades neurologiques, en tout cas, c'est très pertinent ce que nous voyons sur le terrain, mais c'est autre chose. Moi, je pense que à un certain niveau, il faut que notre pays puisse prendre conscience et décoller sur de bonnes bases. Parce que je vous dis pourquoi cette question. Parce que vous savez, les problèmes, il faut plus parler des précautions. Dans notre pays, c'est ce que nous ignorons. Nous aimons beaucoup parler des causes, mais nous aimons beaucoup parler, vivre les conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. C'est là que j'interpelle le ministère de la Santé. Des pouvoirs, et aussi, en même temps, il y a beaucoup de ministères autour de ce sujet. Que fait le gouvernement pour pouvoir mettre en place une politique adéquate? Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Regardez dans des arrêts. Quel type de personnes vous trouvez? La jeunesse complètement déboussolée avec la prise de quoi? Des consommations toxiques, de tout ce que nous avons, des stimulants, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est ce qui cause beaucoup de situations. Vous regardez un jeune homme qui ne respecte pas ni les autorités, ni qui que ce soit. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut prendre en compte. On va les faire lorsqu'il est encore chaud. Je peux vous donner un exemple. Nous avons des hôpitaux ici qui sont complètement abandonnés. À l'exemple de la Gécamines. Gécamines, c'est vraiment, ça faisait la fierté dans les temps. Moi, j'ai vécu à la Gécamines aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, nous avons des spécialistes qui sont
bien,
là.
Bien, merci beaucoup. Les autres attendent. Si vous pouvez rapidement poser la question, parce que les autres attendent.
Je termine.
On n'a pas beaucoup de temps.
Je termine.
Oui.
Je termine déjà. Je voudrais dire ceci. Il faut que l'État congolais prenne ses responsabilités. Comment il va prendre ses responsabilités? Il doit d'abord commencer par donner, sensibiliser la population. Et il y en a qui sont là avec des stress. Il y a des situations compliquées dans le pays, sur le plan social. Ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut manquer de stress? Comment est-ce qu'on peut manquer de situations comme ça?
Merci beaucoup.
Que l'État congolais arrive à prendre ses responsabilités pour que réellement cette population qui est abandonnée puisse être à l'abri de toutes ces maladies que nous parlons aussi, des maladies mentales. Tout simplement, c'est délibérément organisé au niveau à tous les niveaux.
Merci Jérémy. On va donner la parole aux autres. Alors soyez bref dans vos interventions. Allez direct, tout droit, passez directement à la question. Chrysostome, vous êtes à Arou. Bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Tati. C'est très, très important. Alors, du Congo, cette journée est une occasion encore pour poder répondre à l'objectif, mais aussi pour faire des fois si l'état de la santé est
droit. Désolé, on ne vous capte pas très bien. Si vous pouvez aller droit au but, poser rapidement la question, parce que les autres attendent. Quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Quand vous voulez me poser une question, je vais pas question à poser à l'invité. Si, comment est-ce qu'il faut pour rendre les services neurologiques accessibles et abordables à tous, notamment dans les zones rurales comme chez nous, les périphériques. Deuxièmement, je vais demander à l'invité quelles sont les structures concrètes qu'il faut mettre en place pour former et retenir les neurologues dans notre pays. Je cite à dire comment intégrer la santé dans les programmes scolaires? Vous pouvez décider dès le bas âge à l'importance du service et des comportements qui les protègent.
Bien, merci beaucoup. Comment rendre accessible la santé cérébrale dans les zones rurales, et voilà. Et puis il a parlé de la formation et l'intégration de cette formation au niveau primaire. Merci. Dans le cursus scolaire. On va donner la parole à Ismaël Mumpoy de Lumbashi et puis à Blaise Saïdi. Ismaël, bonjour et quelle est votre question rapidement? Allô, Ismaël Mumpoy, bonjour.
Je vais vite donner mon cas. Et si je dis bonjour à tout le monde?
On vous écoute.
Vous me suivez?
Oui, c'est bon.
Ah oui. La santé mentale est un service le plus cher en RDC. Et en plus, ce service est mal organisé. Bon, disons que ce service n'existe presque pas. Nous avons des situations de la guerre dans notre pays qui suscitent plus l'attention soutenue pour soutenir ces gens-là. Mais dans ces milieux-là, qu'est-ce que l'État fait ou peut-être que les professionnels, tels que les professeurs qui est en direct avec nous, ont déjà préconisé pour véhiculer quand même, même une petite prise en charge. Mais dans ce pays, on pouvait multiplier quand même des formations, même n'existe que des formations, pour prendre ces gens en charge. Je vous parle personnellement de mon cas, parce que c'est depuis 2005 que je suis atteint de problèmes de nerfs optiques. Mais je vous dis, à chaque 2 semaines, c'est 48 dollars. C'est un peu le calcul. Il y a certains produits que vous utilisez à vie. C'est, je vous dis, l'État n'a pas plus tiré attention sur ce domaine. Et les professionnels de santé oublient réellement que la mort que nous avons aujourd'hui, l'attitude économique que nous avons, ne permet pas à ce que le responsable des familles puisse dormir dans la maison. Mais la grande question que je pose à l'invité, il est professionnel. Qu'est-ce qu'il préconise de faire dans les jours à venir pourvu que chaque personne qui est à tête de cette affection mentale puisse bénéficier d'un fils qu'elle est soin. Dans le système de réorganisation sanitaire, mais quelle sera un peu des suggestions nouvelles? Parce que nous avons vu que pour la santé mentale, donc c'est un service qui coûte extrêmement cher, mais les gens n'ont pas l'accès.
Bien, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à Blaise Saïd de Kisangani. Blaise, bonjour. Quelle est votre question? Soyez bref. Allô, Blaise.
Fait face à des graves défis dans la prise en charge des maladies neurologiques. Manque criant des spécialistes, infrastructures médicales insuffisantes, stigmatisation persistante des maladies. Voilà, je dois aller tout juste à quelques préoccupations vu que non, le temps qui nous reste. La première question, cher Jody, à l'invité, comment améliorer rapidement la formation et la répartition des neurologues dans tous les pays, surtout dans les zones rurales. La deuxième question, quelle stratégie le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Santé, peut-il adopter pour financer durablement les soins neurologiques et former plus les spécialistes? Et pour citer, la couverture santé universelle en RDC peut-elle intégrer un volet neurologique efficace en court terme? Voici vos préoccupations, cher Jody, à l'invité. Merci.
Bien, merci pour toutes ces préoccupations. Professeur Tarsis Loseke, vous avez la parole.
Merci, je remercie d'abord tous ces auditeurs qui ont posé des questions importantes sur lesquelles je vais m'attarder avec beaucoup de détails. Je commence par Jérémy. Jérémy n'a pas posé de questions. Il est allé dans le même sens que ce que je viens de développer concernant la santé cérébrale et mentale en RDC. Je crois que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Peut-être qu'on va y revenir. S'il y a un aspect important qu'il a évoqué et que vous aimeriez que je développe, je pourrais le faire.
Bien. Chrysostome.
Notre ami Chrysostome de Harou.
Comment rendre accessible
la question, oui, l'accessibilité dans les zones rurales pour les soins de santé mentale ou de santé cérébrale, mais je l'ai dit que c'est un problème de volonté politique des autorités, en commençant par les autorités sanitaires. Il a toujours existé des documents ou des projets de développement de la santé publique dans ce pays, de la santé mentale et cérébrale, dans ce pays, et depuis que le CNPP existe. Malheureusement, on met toujours tous ces projets au fond des tiroirs. Il n'y a pas une volonté politique de développer. J'ai dit que nous manquons des cadres, des spécialistes en neurologie, que ce soit au niveau supérieur, au niveau des médecins ou des paramédicaux. Et nous pouvons les former. Il existe, il a existé pendant un temps. Nous étions dans cette dynamique-là qui s'est ralentie malheureusement. Avec
mais à l'université de Kinshasa, il y a à la faculté de médecine, il y a.
Mais justement, nous sommes à la faculté de médecine.
Tout à fait.
On forme.
Est-ce qu'à Lubumbashi aussi, on forme à Kisangani? Est-ce que c'est pareil?
J'ai donné cours à Kisangani. Je sais très bien qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme pour les étudiants qui aimaient le cours, que ce soit de neuroanatomie ou de neurologie, qui voulaient. Il y en a qui sont venus d'ailleurs en formation chez nous au CNPP. Mais c'était l'accessibilité était un problème complexe. Pourquoi? Parce que lorsque nous formons nos spécialistes, ils vont à l'intérieur, ils ne trouvent rien. Pour l'épilepsie, par exemple, un simple appareil d'électroencéphalogramme qui coûte moins de 10 000 dollars, et on ne sait pas l'avoir. On ne sait pas l'avoir à Kananga, en Bujimaï, vous voyez dans quelle situation. Et ceux-là, ceux qui sont destinés à aller à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des pays où on donne la priorité à la santé cérébrale, à la santé mentale. En Afrique, vous voyez, je vais citer, je ne peux pas me gêner, l'Afrique du Sud, par exemple, là, accueille nos spécialistes. Nos spécialistes vont ailleurs, en Europe et au Canada. Ce sont des gens qui sont très bien formés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une attractivité. On n'encadre pas nos spécialistes, on ne leur donne pas les moyens pour aller dans les zones rurales. Nous avons même demandé tenté de créer des services d'itinérance ou ambulants, comme vous voulez, mais il n'y a pas, on vous dit toujours qu'il n'y a pas de moyens. Ceux qui négligent le développement des services de santé cérébrale ou santé mentale, ils ont eux-mêmes déjà des problèmes de santé mentale. Vous voyez, c'est un cercle vicieux.
Un cercle vicieux.
Donc, ils négligent les zones rurales. Bon, il y a d'autres pathologies qui sont
négligées. Ça veut dire qu'eux-mêmes déjà ont des problèmes.
Oui. Voilà. La deuxième question, je ne l'ai pas notée parce que...
Bon, il a parlé de la formation.
L'audition n'était pas bonne. La formation, je viens de répondre.
Vous avez répondu.
Nous sommes capables de former le personnel qu'il faut si on donne les moyens, et ce ne sont pas les moyens qui manquent dans ce pays. Bon. Intégrer la santé
cérébrale
dans les programmes scolaires.
Dans les cursus scolaires, oui.
Mais je vous informe, ceux qui sont plus jeunes, que nous, quand on a étudié à l'école primaire, il y avait des cours de psychologie. Et d'ailleurs, pour être enseignant à l'école primaire, ceux qui étaient formés à l'IPEN à l'époque avaient des cours obligatoires de psychologie. Et ces cours-là servait justement de la prévention en matière de santé mentale. Et nous étions, il y avait moins de problèmes à l'époque coloniale, à l'époque belge, puisque moi, je suis né à cette époque-là, il y avait moins de problèmes puisque cet encadrement psychologique, cet encadrement qui se faisait au niveau primaire, permettait l'épanouissement et l'amélioration de la qualité de vie future à ces enfants qui grandissaient. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Hein? La moralité, l'éthique et tout ça, ça n'existe plus depuis l'école primaire. Donc, un enfant qui triche n'a pas une bonne santé mentale. Or, on banalise la tricherie.
La tricherie.
Donc, vous
alors,
voyez,
c'est déjà un problème.
Je peux multiplier des exemples. Je peux, oui. Pour dire à notre ami de Harou que il ferait mieux de s'adresser au ministre de l'Éducation nationale pour qu'on retrouve ces programmes-là. L'IPEN, les instituts pédagogiques n'existent plus où on formait les enseignants à inculquer une certaine psychologie, et aussi ça se passe au niveau de la famille aussi, au niveau des parents. Ils doivent avoir une dose d'éthique et d'éducation pour prévenir tous ces problèmes-là. Ismaël de Lubumbashi, il dit le service le plus cher.
Ça coûte cher.
Oui, ça coûte cher. Et partout au monde, ce n'est pas seulement au Congo, puisque les soins neurologiques et psychiatriques sont les soins les plus chers. Partout. Partout où j'étais, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Europe, partout.
Ça coûte tout,
ça
tout
coûte
cher.
Très cher. Et l'État doit investir dans ces soins-là, sous forme, par exemple, d'équipements, et sous forme de mutuelles de santé pour soulager les poches des contribuables qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, je lui dis tout de suite que c'est normal que ça coûte cher, mais c'est un devoir de l'État d'assurer la santé à sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour faire le plaidoyer à ceux, aux décideurs qui devraient s'occuper de ce problème. Il demande que si je préconise dans les jours à venir, mais c'est tout ce que nous disons aussi. Hein, nous avons organisé le 50e anniversaire du centre de neuropsychopathologique où nous avons fait une large sensibilisation avec un thème principal: santé mentale pour l'émergence de la RDC. Ça veut dire que dans l'avenir, si on ne s'occupe pas de la santé mentale,
le pays aura du mal à émerger.
Nous sommes plombés pour longtemps, puisque nous aurons toujours à certains niveaux de décision des problèmes, des personnes qui ont eux-mêmes des problèmes de santé mentale et qui s'ignorent. Des gens qui ont potentiellement des problèmes de santé
mentale,
mais
qui s'ignorent.
Monsieur Blaise de Kisangani, il dit comment améliorer la formation.
La formation et la répartition des...
Je viens de le dire, c'est une question de volonté politique et d'organisation. On peut y arriver.
Est-ce qu'on peut intégrer la santé cérébrale dans la couverture santé universelle?
Nous en avons parlé avec les responsables de la couverture santé universelle, qui pour la plupart d'ailleurs sont des étudiants qui sont passés par nous et qui comprennent l'importance de la santé mentale, la santé cérébrale, dans le cadre de la couverture santé universelle. Mais la couverture santé universelle elle-même, au pays, nous en sommes où? Ça, c'est la question. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, mais puisqu'il y a d'autres, il y a plusieurs problèmes qu'on a ciblés, comme les accouchements gratuits, beaucoup d'autres choses, mais la santé mentale, ça viendra probablement un jour, mais ici, il faut une solide volonté politique.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous parlons de la prise en charge des maladies neurologiques en République démocratique du Congo. Quel état des lieux? Des questions et préoccupations, composées les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Bien, nous avons Thomas en ligne depuis Kisangani et Adélar Nguengele aussi est dans la même ville. Thomas, bonjour.
Bonjour beaucoup, je vous dis et bonjour à l'invité ici et à tous les auditeurs.
Oui, bonjour Thomas.
Merci beaucoup, monsieur. Je dis la parole, nous accorder. Je m'en vais directement aux questions. La première question, vous avez... L'invité a parlé ici des principales, en tout cas, maladies. L'invité et le docteur a énuméré. Je ne sais pas par rapport à la prévalence, comment la prévalence là varie selon les régions. Je ne sais pas comment leur prévalence varie des principales maladies là, bien sûr, selon les régions. Ça varie. Comment est-ce que ça varie à travers les régions? Ça, c'est la première question.
Deuxième question,
monsieur Jody, c'est, je sais pas, monsieur le docteur, quel est l'impact de la stigmatisation, sur la prise en charge des patients? Parce que je suis certaines bouches là en train de parler de la stigmatisation aussi, contribuer également, je ne sais pas si vous êtes vu quatre assez, et quel est en tout cas l'impact de la stigmatisation sur la prise en charge des patients. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, le docteur a parlé ici, la question des moyens qui posent un problème, mais c'est la question des volontés politiques. Je ne sais pas, docteur, quelles sont alors les politiques de santé qu'on doit mettre en tout cas en place pour améliorer si vous voulez, les traitements des maladies neurologiques. Je ne sais pas quel soit le problème.
Bien, merci Thomas. Adélar Nguengele, vous êtes à Kisangani aussi. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour, chers invités.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Adela?
Oui, par rapport d'abord à la thématique, je m'en vais tout droit d'abord à un constat. Mon constat est que, selon ce que moi, je sache, la plupart de cette maladie qui est liée à la neurologie, la plupart, suite à une manque d'information, beaucoup l'attribuent à un mauvais sort. Hein? Et alors, comme ce sont des traitements aussi qui coûtent un peu cher, vous trouverez que la majorité des gens se précipitent pour aller dans des églises pour chercher à trouver un peu de soulagement. Parce que quand on attribue ça à un mauvais sort, vous trouverez, on cherche le serviteur de Dieu pour trouver un peu de soulagement. Et vous trouverez que quand quelqu'un se trouve là-bas, et il connaît qu'à chaque moment, telle maladie arrive, c'est lié à un mauvais sort, il y a un peu de frustration. Alors, quelqu'un pour se renseigner, ça ne pose problème parce qu'il sait très bien que les gens sauront que voilà, je suis animé de mauvais sort, et ainsi de suite. Alors, ma question est maintenant de savoir où je voulais poser à l'invité. Et il ne serait pas mieux d'abord, premièrement, de faire une forte sensibilisation. Si cela aura lieu, ma deuxième question, je m'en vais tout droit pour dire s'il serait aussi mieux, ou il ne serait pas mieux aussi de partir dans de différentes religions, ou appeler les hommes de Dieu, les sensibiliser aussi par rapport à cette maladie pour qu'ils mettent au courant les
fidèles. Merci, merci Adela. D'accord. Merci beaucoup. On a compris vos préoccupations. Nous parlons de la prise en charge des maladies neurologiques en RDC. Quel état des lieux est dressé, professeur? Tarsis Loseke, vous avez suivi les deux auditeurs. À vous la parole.
Oui, je remercie Thomas et Adela pour leurs questions, qui sont des questions pertinentes et surtout capitales. Je vais essayer de leur donner les réponses. Mmh. Et Thomas, vous m'avez posé la question sur la prévalence des maladies neurologiques.
Je l'ai dit
d'entrée de jeu que, du point de vue épidémiologique, nous n'avons pas beaucoup de statistiques valables. Les archives n'existent quasiment pas dans nos hôpitaux, et puis les suivis des malades.
Donc,
je vais y revenir. Il y a des malades qui nous quittent et qui vont voir les féticheurs, les pasteurs et tout ça. Et il y a une dispersion d'énergie. Il y a une organisation nécessaire dans ce secteur-là et qui doit être impulsée par les responsables de santé publique de ce pays. Et là, je ne sais pas en dire plus, puisque des maladies comme les AVC, notre ami qui est avec moi au studio, M. Kachama, a évoqué les AVC qui prolifèrent dans la ville de Kinshasa. Et peut-être on n'aura pas l'occasion d'aborder à profondeur les causes, par exemple, des AVC, qui sont liées principalement à la qualité de vie, à l'hygiène de vie, mais bon. Et il y a
bon, on aura l'occasion, vous allez revenir pour nous en parler.
Avec plaisir.
Voilà.
Donc les incidences, prévalences, il n'y a pas beaucoup de données épidémiologiques disponibles, surtout qu'il y a plusieurs maladies, notamment AVC, épilepsie, maladies infectieuses et consorts. Nous n'allons pas
les traumatismes,
nous attarder. Voilà. Donc, il faudrait qu'on s'organise, et là, il faut que les services de santé publique mettent à la disposition des hôpitaux neuropsychiatriques les moyens pour organiser tout ça. L'impact de la stigmatisation sur la prise en charge. Vous avez raison. Nous avons un problème culturel majeur dans notre pays. Quand quelqu'un a un problème de santé mentale qui devient visible, parce que je continue à vous dire qu'il y a beaucoup de malades mentaux qui s'ignorent et qui circulent, qui sont dans des motos ou quoi, qui provoquent des accidents, qui font n'importe quoi, qui ont des comportements pervers. Eh bien, cela on n'en parle pas, elles ne sont pas stigmatisées. Hein? On les punit peut-être puisqu'ils deviennent des colonnas avec des machettes et quoi, mais ce sont des malades qu'on doit soigner. Mais la stigmatisation relève de notre culture.
Par exemple, quelqu'un qui fait l'épilepsie, il peut être victime de la stigmatisation dans la société.
Et il n'y a pas que l'épilepsie. Il y a plusieurs maladies, que ce soit neurologiques ou psychiatriques, qui sont stigmatisées. Mmh. Hein, les psychoses chroniques de tout genre. Et ça relève de notre culture. Parce que on commence à dire à des enfants, par exemple, qu'il y a des enfants sorciers, par exemple. Donc, c'est une forme de stigmatisation. Alors, ces enfants souffrent de certains problèmes que l'on peut guérir. Donc, la stigmatisation, nous devons la combattre avec la dernière énergie. Mmh. Et nous devons le faire dans le cadre de nos prises en charge, dans la mesure du possible. Mais il faut travailler aussi notre culture. Adela, de la politique et de santé, je crois que j'ai abordé.
Oui, ça, on en a déjà parlé. Adela est revenu mais sur le mauvais sort.
Et là, je vais insister sur deux choses.
Oui.
Je viens de parler de la culture, mais il y a aussi l'ignorance. C'est pour ça que nous devons sensibiliser. Sensibiliser n'est pas se fatiguer. Tant qu'on aura un peu de moyens, nous qui sommes les travailleurs de santé mentale, de santé du cerveau, nous devons nous en occuper. Je vais vous donner juste un exemple, à quelques secondes, de ce qu'on appelle les mauvais sorts. Il y a quelqu'un dans ma famille proche qui a fait un AVC avec perte de la parole. C'est parmi les symptômes que l'on voit lorsqu'on fait un accident vasculaire cérébral. Mmh. Eh bien, la famille l'a amené dans une clinique qui dépend d'une église. Et dans cette église-là, tous les autres médicaments ou les soins qu'on devait donner à ces messieurs-là, très jeunes d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient que la cinquantaine, les pasteurs ou les responsables de l'église ont dit non.
On ne donne pas.
On ne donne pas. Ils avaient leur soi-disant potion magique et des piqûres qui faisaient mal d'ailleurs, parce qu'il faut que ça fasse mal pour qu'on dise que c'est bon. Donc vous voyez, tout ça c'est de l'ignorance, tout ça c'est la sensibilisation que nous devons faire. Il n'y a pas de mauvais sort.
Et quelle était l'issue, la fin de l'histoire?
Les choses se sont compliquées, le patient a fait la récidive, hein, puisque vous savez que quand on fait un AVC, où on s'améliore, où on meurt. Si vous n'avez pas de traitement, une bonne prise en charge. Et donc, l'issue était fatale, donc il ne pouvait que faire la récidive et mourir. Et donc, voilà des situations qui sont regrettables et déplorables, et on fait le deuil, alors qu'on a donné beaucoup d'argent au pasteur ou à l'église. Bon, à propos de la sensibilisation, c'est justement ce que nous faisons. Même cette émission-là, lorsque nous parlons ici au micro, nous faisons la sensibilisation. Que ceux qui ont la possibilité de nous écouter, de réfléchir avec nous, comprennent que le pays doit prendre en charge les problèmes de la santé du cerveau et la santé mentale. Quant aux religieux, moi je n'y crois pas, ils font beaucoup plus de dégâts autre chose.
Et les praticiens...
Pour moi, ça ne devrait même pas exister. Quand je vois l'ampleur des dégâts qu'ils commettent, ça ne devrait même pas exister. Je n'y crois pas. Non pas que je suis
formé certains y croient,
à l'occidental.
Hein, oui.
Peut-être il existe des médicaments. Je suis pour la pharmacopée locale et indigène. J'y crois aussi. Parce que moi-même, j'ai bénéficié, quand j'étais encore enfant, jeune, j'ai bénéficié de certains traitements de la pharmacopée locale.
Et ça a marché, ça a donné...
les remèdes des grands-mères.
Oui, et ça a donné de bons résultats.
Oui, mais les charlatans et les féticheurs qui font ce que j'appelle de la manipulation, tout ça pour des raisons purement pécuniaire, ça, je ne suis pas d'accord et on doit combattre ça avec la dernière énergie.
Bien, on va accueillir le dernier auditeur avant de nous séparer. Jérémy, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour, monsieur, aujourd'hui c'est Eminent Mwanda.
Pardon?
C'est Eminent Mwanda, Eminent.
Oh, c'est plutôt Eminent Mwanda et non Jérémy. Oui, Eminent, vous avez la parole.
Oui, je vous salue encore et je salue notre invité et tout le monde de la radio Capi. Ma question d'abord est de savoir pourquoi certaines maladies ne sont plus guéries au niveau des structures médicales bien reconnues, si je veux dire les finissent par être guéries par les praticiens, comme l'invité en train de vouloir pas accepter le soulan. Parce que je sais très bien qu'ici, chez vous, partout ailleurs, la médecine traditionnelle va prendre ampleur et un niveau le plus considérable que d'autres malades.
Merci. Merci beaucoup, Eminent. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui?
Je voulais chuter en disant ceci aussi.
Oui, allez-y.
Comment réellement le chat peut aider les gens à attirer un service de santé le plus responsable, parce que nous savons très bien que la santé n'a pas de prix.
Bien, merci beaucoup. Merci, Eminent Eminent Mwanda depuis Bukavu. Voilà, il dit que parfois les gens se rendent à l'hôpital, la médecine moderne échoue, mais ça marche chez les tradis praticiens. Professeur Tarsis Loseke, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je n'y crois pas. Je ne crois pas que les tradis praticiens soient mieux outillés pour traiter les maladies neurologiques ou neuropsychiatriques.
Nous, que la médecine moderne
s'est formée. Peut-être qu'il existe, j'ai dit, dans la pharmacopée congolaise ou traditionnelle, certains médicaments ou certaines ponctions ou potions, des choses voilà. Comme ça, que l'on peut donner, mais il y a surtout l'aspect psychologique. Parce que quelqu'un qui va dans l'hôpital,
oui,
et qui n'est pas pris en charge, qui est négligé par les soignants ou quoi, et qui trouve de l'empathie ou un encadrement, parce qu'il faut s'occuper aussi de la psychologie du patient.
Tout à fait.
Et qui trouve un encadrement de l'empathie chez les tradis praticiens, rien que pour ça, il peut se sentir mieux. Et ça donne l'impression d'une guérison. excusez-moi. Alors que nous demandons à nos médecins que pour soigner un corps humain, un homme, c'est quelqu'un, ce n'est pas un numéro, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas... Il faut respecter l'homme qui est devant vous, quel que soit son niveau, son rang social.
Donc, professeur,
la première chose à faire.
D'accord.
À professeur, ce qui concerne l'État, moi je n'ai pas grand-chose à dire, j'en ai dit beaucoup. Et nous verrons la prochaine fois.
Bien, la prochaine fois vous allez revenir, nous allons poursuivre, échanger encore sur ces thématiques intéressantes. Professeur Tarsis Loseke, neurologue, merci.
Merci beaucoup, monsieur Kacham.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Debs Vita était à la mise en onde, de Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation. Miko, Jody, Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Elle s'est branchée sur la fréquence de la paix et à la prochaine.